dit Eliane, le local change, mais le Dieu est le même. Donc c'est essentiel. J'aimerais ce matin que nous puissions faire une petite promenade avec un texte des évangiles, dans l'évangile de Luc. Je dis promenade parce que c'est un texte qui parle d'une marche. Je sais que c'est dans une région, dans un pays où on aime marcher. On a eu un temps fantastique pour marcher ces temps-ci. Dans Luc 24, à partir du verset 13, je vous encourage, si vous avez vos bibles, votre téléphone ou quoi que ce soit avec le texte, de le garder sous les yeux, parce qu'on va juste se promener dans ce texte ce matin. Luc 24, 13. « Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. » Ça se passe après la mort de Jésus-Christ. Les femmes ont vu au tombeau, mais ils n'ont pas tout compris. Puis eux, ils ont eu peur, ils sont partis. Hein. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leur Dieu était empêché de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ?» Quoi leur dit-il ? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en acte et en parole devant Dieu et devant le peuple. Comme les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des apôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce même moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. On voit dans ce texte comment Jésus a envie d'avoir avec nous un parcours qui est interactif. C'est pas simplement un message sur Jésus, mais Jésus vient et va les rencontrer et il va se passer beaucoup de choses. Alors, la première chose dans les premiers versets, je me demandais combien de fois je suis en train de papoter dans ma vie de choses qui ont l'air importantes. Et Jésus arrive et il veut faire ce bout de chemin avec moi. Et moi, je suis préoccupé peut-être par des choses de Dieu, entre guillemets, parce qu'après tout, je suis pasteur. Hein. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à la prochaine réunion de prière, comment on pourrait encourager les gens à venir, quel message on pourrait prêcher, quel verset on pourrait lire, quel programme pour les jeunes. Et puis, je marche dans ma vie comme ça, avec toutes mes activités à faire. Et puis, j'ai fait une petite prière le matin, hein, « Seigneur, bénis ma journée », j'ai lu mon petit texte, etc. Et puis Jésus, lui, le vrai, il est là, à côté de moi, dans ma voiture, dans mon bureau, sous la douche, etc. Et puis il marche à côté, et puis moi je ne sais pas qu'il est là, tout simplement parce que je discute, je parle, hein, avec moi-même, parce que vous savez, moi je parle toujours, quand je ne parle pas avec quelqu'un, je parle avec moi-même, et je parle. Et Jésus fait le chemin à côté, et puis il attend qu'à un moment, peut-être que je m'aperçoive, « Ah tiens, il y a quelqu'un là. » Heureusement, pour ces deux disciples-là, ils l'ont vu. Ils n'ont pas reconnu, mais ils l'ont vu. Et là, en langage d'aujourd'hui, on dirait Jésus, il tape un peu l'incruste. Hein. Ici, ça serait un peu mal vu. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de marcher dans la montagne, puis vous croisez un autre marcheur. Alors, bien sûr, on se dit bonjour parce qu'on est poli. Mais après, même si vous faites le même chemin, on ne parle pas. Hein. On essaie de marcher un peu plus vite, un peu moins vite, pour ne pas être juste à côté. Quoi. Mais Jésus, lui, il reste à leur niveau, et puis il reste avec eux. Donc, ils sont en train de parler, bah, ils sont quand même polis. Hein. Et puis, Jésus leur dit, de quoi parlez-vous? Et là, ils sont là, mais ils viennent d'où? Avec ce qui s'est passé là, oh, ces jours-ci à Jérusalem, tu étais sur quelle planète? Tu fais qui? Ouais. Et moi, j'aime imaginer cette histoire que j'aime beaucoup. Et j'imagine Jésus qui a du mal à se retenir de sourire. Parce que ben, lui, forcément, il sait qui il est, il sait qui ils sont. Eux, ils n'ont rien compris. Et puis, mais tu viens d'où? Et Jésus, très sérieux, qui leur dit, ben non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et là, il va les laisser leur expliquer ce qu'ils savent. C'est assez amusant comme situation. Lui, il a vécu. Hein. Donc, voyez. Et je trouvais déjà que c'était interpellant, parce qu'on aurait pu s'imaginer que dès le début, Jésus leur dise, attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais ils n'auraient pas vraiment compris non plus. Parce que ceux qui l'ont vu n'ont pas compris. Et là, on voit la pédagogie de Jésus qui, d'abord, les laisse reformuler eux-mêmes ce qu'ils ont compris. Et ils vont expliquer. Comment? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Alors voilà, ils expliquent. Et je ne vais pas vous relire tout le texte. Mais leur explication, elle est parfaite. Ils ont tout compris, ce qui s'est passé. Ils connaissent les faits exactement, dans le bon ordre. Vous pouvez vérifier, la chronologie est correcte, etc. etc. Oui, là, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis, ils vont même jusqu'à expliquer leur ressenti à la fin. On est déçu, on est triste. On croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Et je trouve ça assez incroyable, parce que nous, on est tellement pressés d'expliquer aux autres ce qu'il faudrait qu'ils croient, comment il faudrait qu'ils croient, ce qu'il faudrait qu'ils pensent. Et c'est pour ça que nos rassemblements, c'est un peu étrange que ce soit moi qui dise ça, mais ressemblent à ce qui ressemble à toutes les églises ce matin. Il y a quelqu'un qui parle, il y a des gens assis qui écoutent. Et, alors, Jésus a enseigné aussi, il y a des moments pour ça. Mais s'il n'y a que ça, il manque beaucoup de choses. Parce que Jésus, entre deux moments où il prêchait, il y avait les centaines d'heures où il marchait avec les gens, et puis il posait des questions, et puis il faisait des choses bizarres qui faisaient que les gens se posaient des questions. Il y avait cette vie interactive avec les gens, et nous avons besoin de retrouver ça. Parce que si notre christianisme se résume à savoir des choses dans le bon ordre, comme elles se sont passées au bon moment, de la bonne façon, ben on sera aussi intelligent spirituellement que ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ah, ils avaient des informations. Hein. Alors au jour d'aujourd'hui, ça se traduit autrement. Hein. On connaît les doctrines, on connaît les versets, on connaît la version en grec, en hébreu, en araméen. On explique que les documents qu'on a trouvés dans tel endroit expliquent. Et toutes ces choses sont utiles. Hein. Les faits, il fallait qu'ils soient là. Mais si ça s'arrête là, on est juste des promeneurs qui quittent Jérusalem en parlant de choses qui ne vont pas changer nos vies, qui ne vont pas nous amener à vivre quelque chose avec Dieu, qui ne vont pas nous amener à témoigner, on est juste dans les faits sur le christianisme. Hein, voilà. Et puis, ben, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé quelques années dans une école du dimanche, enfin après à 10 ans j'ai quitté ça, puis j'ai trouvé autre chose qui était beaucoup mieux, avec mes parents. Et puis il y avait cette pression d'une semaine à l'autre où il fallait apprendre les versets par cœur. Puis moi je suis une catastrophe pour apprendre les choses par cœur. Puis en plus il fallait savoir les références. Pour moi, les chiffres, c'est une impossibilité pour moi. Alors, je savais à peu près ce que disait le verset, mais le chiffre, je ne le savais jamais. Et puis, du coup, ben, je n'avais jamais le bon point, je n'avais jamais la grosse image à la fin, puisqu'il fallait additionner les bons points pour avoir la grosse image. Et puis, je repartais tout triste de ces écoles du dimanche, parce que ben, je n'étais pas qualifié pour devenir un bon chrétien, puisque les bons chrétiens, c'est ceux qui savaient les versets avec les références. Et souvent, en tant qu'adulte, on a reproduit ça. Le bon chrétien, c'est celui qui sacrifie son dimanche matin au lieu de la grâce matinée, il vient au culte. Et puis il sacrifie son jeudi soir et au lieu d'aller regarder, je ne sais pas quoi, à la télé ou jouer au foot ou voir un match, il va à la réunion de... Et puis... Hein. Et on est comme ces pèlerins, on croyait que Jésus changerait nos vies. Ah oui, au ciel, ça ira mieux. Oui, au ciel, ça ira mieux. Mais peut-être que ça peut aller mieux sur terre aussi déjà. Hein. Alors voilà, Jésus est là, et puis il les écoute, et finalement, il parle, bien sûr. Hein, pas que les écouter. Et là, il y a ce texte incroyable où il est dit, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je me suis toujours dit qu'une des choses que je ferais en arrivant au ciel, c'est de voir la vidéo de cette discussion-là. Ça devait être une étude biblique sur l'Ancien Testament assez passionnante. Jésus, sur le chemin, qui explique tout ce qu'il concerne dans les Écritures. Vous imaginez ? Bon, il y avait à peu près 12 km, hein, il est dit. Donc, je ne sais pas s'il les a rejoints au début. 12 km, Philippe, ça fait quoi ? 2 heures et des poussières ? Ou des bons marcheurs ? Mettons 3 parce qu'il parlait en marchant. Hein. 3 heures d'études bibliques. Allez, comme il y a eu le début, ils ont parlé 2 heures et demie. Pas mal. Où il leur explique réellement qui il est. Et là, c'est assez incroyable parce qu'ils écoutent, il se passe quelque chose, on va le savoir après, mais eux, ils ne savent pas qu'il se passe quelque chose. Ils sont polis, c'est bien, ils écoutent, et ils ont une autre qualité qui est assez incroyable parce qu'ils ont, pour le moment, on pourrait dire, ils sont assez nuls. Ils ont une très grande qualité. Déjà, à ce moment-là, ils sont humbles. Parce que moi, si je suis en train de parler avec un ami de quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui s'invite dans la discussion, et puis qui, au bout d'un moment, décide de m'expliquer ce que je devrais savoir, je pense que je vais lui dire plus ou moins poliment, écoute, voilà, on est en train de discuter avec mon ami, tu peux nous laisser parler ? Tu peux dire un mot de temps en temps, mais tu ne vas pas monopoliser la parole. Eux, ils ont cette humilité-là de, ils se taisent, et puis ils écoutent. Et puis ils marchent, 2h30, comme ça. Ils marchent, et ils écoutent. Et ce qui est assez incroyable, c'est que après ça, Jésus continue de, alors comprenez bien dans le sens où je dis, de jouer avec eux. C'est pas jouer dans le sens qu'il les méprise, de s'amuser, de les prendre pour des enfants. Hein. Mais Jésus est extrêmement, si on parle comme ça, doué pour créer le désir. Hein. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire semblant de les quitter. C'est rusé quand même comme truc. Hein. On pourrait même dire que c'est un peu tordu, quoi, parce que lui, il sait qu'il veut rester, mais le texte nous dit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il fit mine de s'en aller, genre, ok les gars, alors je vais vous laisser, mais il ne veut pas partir. Donc il fait mine de s'en aller. Et puis, là, il y a ce qui est peut-être le centre de tout ce texte pour nous, en tout cas, verset 28. Mais ils le retinrent avec insistance en disant reste avec nous car le soir approche. Et ça c'est magnifique parce que ils n'ont pas compris grand chose. Hein. Déjà avant qu'ils arrivent, ils avaient rien compris. Ben, ils avaient vu, ils avaient tous les faits, toutes les informations, mais ils n'avaient pas compris l'essentiel. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il veut vivre en vous. Ça, ils n'ont pas compris, ils ne pouvaient pas le comprendre encore, bien sûr. Et là, ils viennent leur expliquer pendant 2h30 qui il est, et puis, je ne sais pas, enfin, ben, on n'y était pas, mais moi, j'imagine un peu. Puis, mais ils n'ont pas compris. Pendant 2h30, ils leur expliquent qu'ils n'ont toujours pas compris. Alors, leur intelligence n'a toujours pas compris. Mais leur intuition spirituelle a quand même compris qu'il se passait quelque chose. Parce qu'au moment de se séparer, ils insistent, non, reste, puis Jésus est là, non, je dois y aller, vous savez, j'ai encore, allez, reste avec nous, comme ils ne trouvent pas d'argument pour le faire rester, ils trouvent un truc, peut-être il a peur du noir, écoute, le jour décline, là, ça va être dangereux sur la route, reste avec nous. Et finalement, Jésus dit, d'accord, ok, puisque vous insistez pas, je voulais pas, mais puisque vous insistez, je reste. Hein. Là, ils s'assoient et ils vont manger ensemble. On est au cœur de la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? Qu'on s'assoie et qu'on mange avec lui. Ce verset qu'on cite toujours pour, soi-disant, l'évangélisation. Jésus qui parle dans l'Apocalypse et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et je souffrirai avec lui et lui avec moi. » J'ai toujours entendu prêcher ce verset, enfin toujours, j'écoute plus beaucoup de prédications, mais... pour l'évangélisation, pour les non-croyants, je frappe à la porte. Mais pas du tout. C'est dans les lettres aux églises. C'est à nous que Dieu parle. Ben, aussi aux non-croyants, bien sûr. Hein. Mais c'est à nous que Dieu parle. C'est assez incroyable. C'est tellement simple et tellement difficile à faire. Il veut juste qu'on s'assoie, et puis lui est assis de l'autre côté de la table. Et là, quand il va dire la prière traditionnelle qu'on fait avant les repas, hein, il respecte la culture et la tradition de l'époque, tout d'un coup, ils le reconnaissent. Ça a mis tout ce temps-là pour que leur cœur, qui était, on va le voir, réchauffé, fasse remonter les informations jusqu'à leur petit cerveau qui comprend toujours les choses beaucoup plus tard. Je fais une parenthèse, mais c'est pour ça que Jésus, ressuscité, s'est montré à des femmes avant les hommes. Parce que les femmes ont une intelligence intuitive bien plus développée que les hommes. Elles n'ont pas plus compris intellectuellement que les hommes, mais elles ont compris que c'était Jésus. Les hommes, il fallait qu'ils comprennent comment c'était possible. Vu que ce n'était pas possible, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que jamais personne n'était ressuscité avant. Ils étaient en train de chercher, oui, mais alors peut-être qu'il s'est endormi, il s'est réveillé, non mais... Les femmes, elles n'ont pas cherché à comprendre, c'est Jésus, c'est lui, c'est le maître. Hein, elles l'ont su. Et chez les disciples, ça a pris, c'est 2h30, 3h, plus des explications. Mais finalement, au moment où ils sont à table en train de partager cœur à cœur avec Jésus, leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Ce n'est pas un truc magique que tout d'un coup Jésus a fait, abracadabra, pouf, amen, et pouf, leurs yeux sont ouverts, ils l'ont reconnu. Parce que c'était le même, il ne ressemblait pas apparemment physiquement à l'apparence qu'il avait quand il était avec eux. C'est juste que ce qui s'était passé en eux spirituellement est arrivé dans le domaine de la conscience. Et là, ils ont dit, mais bien sûr, mais c'est bien vrai, c'est lui. C'est pour ça que les disciples, à cette époque-là, parce qu'il s'est présenté plusieurs fois, avaient tous le front plat et les oreilles décollées, vous connaissez l'histoire, hein. Mais qui c'est ? Mais bien sûr, mais c'est bien vrai, c'est Jésus. Parce qu'à chaque fois, ils ne le reconnaissaient pas. Et donc là, ils le reconnaissent et ils font le travail de compréhension à l'envers. Parce que Jésus a cette particularité, c'est qu'au moment le plus important, il disparaît. Là, en fait, ils l'ont reconnu. Et puis nous, on pourrait dire, bon, maintenant, ça y est. Ils ont compris, ils l'ont reconnu et là, il va prêcher. Parce que maintenant, il a un auditoire qui comprend. Hein. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Genre Marie Popis, il claque des doigts et il passe à travers le mur et il n'est plus là. C'est assez incroyable cette histoire. Mais c'est ce que Christ veut faire avec nous. C'est ça le but de la vie chrétienne. Et ça commence depuis le début. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait venir le soir et partager l'apéro avec eux quand il faisait bon dans le jardin et discuter cœur à cœur et puis être là avec... un verre de jus de pomme, pas celle du pommier qu'il ne fallait pas prendre, mais les autres, hein, et puis discuter avec eux. Et puis on a choisi un autre chemin, mais Dieu est têtu, il ne change pas de plan. Donc il y a eu tout ce qui s'est passé, toute l'histoire, Christ qui vient, qui meurt, qui ressuscite, là, les prophètes, l'Ancien Testament, tout ça dans quel but ? Pour qu'on puisse se retrouver en tête à tête, lui et nous, lui et moi, autour d'une table, simplement où il va partager le pain, et puis on va échanger, cœur à cœur, dans l'intimité. Lui et moi, moi et lui, et puis il va y avoir ce moment magique, et au moment où je comprends ce qui se passe, il n'est plus là. Mais ce n'est pas grave, je sais que je l'ai rencontré, je sais qu'il était là. Et ça, ça me donne une force incroyable pour continuer, pour aller plus loin, pour repartir. Parce que c'est le point suivant, et c'est le dernier. Ces deux hommes qui étaient en train de fuir Jérusalem, pourquoi ils fuyaient ? D'abord parce qu'ils étaient découragés, deuxièmement parce qu'ils avaient peur, les soldats peuvent nous arrêter, puis troisièmement parce qu'il n'y a plus rien à faire, notre histoire est finie, on s'est fait arnaquer, là. Ça fait quelques années qu'on a suivi un bonhomme en croyant qu'il était quelqu'un d'autre, c'est un imposteur, il est mort, la mort c'est la fin, plus de motivation, plus rien, alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent à leurs affaires, puis comme ils n'étaient probablement pas originaires de Jérusalem, ils repartent chez eux. Ils vont redevenir bergers, pêcheurs, agriculteurs, potiers, je ne sais rien ce qu'ils étaient. Et puis, ils sont bons, il faut vivre. Mais là, ils rencontrent Jésus, il y a tout ce processus qu'on a vu ensemble, qu'on a survolé, mais qui les amène à ce repas, ils le reconnaissent, ils ont cette déclaration incroyable, « Notre cœur ne brûlait-il pas un chemin pendant qu'il nous expliquait les Écritures ?» Mais c'était ça, ce « Ah, mais c'était « Ah, oh, waouh !» Hein, c'était waouh, tout d'un coup la compréhension et l'intuition spirituelle se rejoignent parce que Dieu ne nous a pas fait pour vivre que d'intuition, hein, il faut qu'on comprenne aussi. Mais là, les deux se superposent comme des calques et ah oui, et d'un coup, toutes les coches se remplissent. Ah, ils ont compris. Et là, c'est plus un cœur qui se réchauffe qu'ils ont, c'est un cœur qui est en flamme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils viennent de se taper 12 bornes. C'est la nuit, puisque le jour décline, ils ont pris le repas. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Verset suivant. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Comme des flèches. Là, à mon avis, s'ils ont mis 3 heures à l'aller, ils ont mis 2 heures et quart autour. Tellement ils étaient motivés, les pieds touchés à peine par terre. Moi, c'est un texte qui m'interpelle en tant que pasteur, parce que, vous savez, dans les réunions entre pasteurs, une des grandes discussions, c'est pourquoi les gens sont plus motivés, la culture, le ci, le ça, aujourd'hui, la télé, internet, le machin, le truc, là, on trouve des tas d'explications culturelles qui sont toutes vraies, hein, mais qui sont toutes fausses. Parce que quand on a eu cette intimité avec Christ, on est motivé. Pourquoi on n'arrive pas à la partager, j'en sais rien. Pourquoi ça ne se passe pas dans les cœurs, j'ai pas l'explication. Mais c'est la seule chose qui nous manque. C'est pas un autre programme, changer la musique, changer la salle, changer la déco, que ce soit plus cool, plus strict, moins strict, plus ci, plus ça, moins... Non. Si nos vies chrétiennes ne nous amènent pas à ce moment où on est à table avec Christ et où tout d'un coup on se dit « Ah, mon cœur est en feu !» Eh bien, il y aura les gens découragés, honnêtes, qui rentrent chez eux, et puis les gens découragés, un peu hypocrites, qui continuent de faire semblant. C'est tout ce qu'il y aura. Mais on a besoin d'autre chose. On a besoin de cette motivation qui fait que tout d'un coup, même si c'est la nuit, même si c'est dangereux, on va faire le chemin à l'envers pour retourner et reprendre la vie. Hein ? C'est ça qui fait que... Et on est tellement incohérents, pour ceux qui vont recevoir notre programme ce matin, j'ai écrit notre petite pensée du mois sur les incohérences, tout simplement parce que je suis toujours choqué par les miennes. Hein. Comment je peux passer 20 minutes à chanter un jour dans tes parvis pour mieux que 1000 ailleurs? Et quand je chante, je suis sincère. Hein. Mais une heure, toutes les deux semaines, j'arrive pas à la trouver pour retrouver les chrétiens. Souci, là. Je suis pas cohérent. Hein. Oh, tu es le premier dans ma vie, mais écoute, là, pour le prochain rendez-vous avec toi, 2018 c'est plein, 2019 aussi, en 2021, entre 15h et 15h30, j'ai un créneau si tu es libre. C'est à peu près ça, hein. Et je parle de moi, là, parce que je suis devenu suisse, j'ai un agenda, je planifie mes rencontres avec Dieu. Et c'est triste, mais ce que j'ai besoin, c'est pas de me culpabiliser, de dire « Pourquoi je suis pas plus sérieux? Il faudrait... Avec tout ce qu'il a fait pour moi, je devrais me sentir coupable. » Non, ça sert à rien, ça. Ce que j'ai besoin, c'est, pendant que je marche sur la route, à un moment de m'apercevoir qu'il est là, de l'inviter à faire la route avec moi, et quand il fait mine de partir, de dire « Reste avec moi, le soir décline, s'il te plaît, ne pars pas. J'ai pas tout compris, je sais pas... Je suis fatigué, assieds-toi à table avec moi. » Et là, on s'assoit, et là, il se passe un truc, c'est pas magique, mais surnaturel, ou tout simplement spirituellement naturel. Et là, mon cœur, ça se rallume. L'autocombustion. J'ai vu cette vidéo une fois qui m'a impressionné, hein. Je ne savais pas que c'était possible. Une bûche dans un four, et on monte la température, et à un moment, quand la température est très haute, Thomas pourrait nous dire quelle est la température, je ne sais pas. La bûche s'enflamme toute seule. Il n'y a rien, il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de pétrole. D'un coup, elle... c'est trop chaud. C'est ce qui s'est passé avec le cœur de ses disciples. Ça s'est enflammé. Et là, ils n'ont plus peur. Ils repartent, ils rencontrent les autres. Et c'est reparti. Et c'est, je crois, la seule chose dont on a besoin dans nos vies. Alors, pour arriver là, il y a plein de choses. Il faut savoir, il faut connaître, il faut retrouver, il faut s'impliquer, il faut ci, il faut ça. Mais le but, c'est celui-là. Qu'on puisse s'asseoir à table et le reconnaître. Et notre part à nous, c'est juste un petit peu d'humilité pour l'écouter. Et puis, cet acte de décision qui est minime, mais qui est « Reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. » Et je voudrais terminer en lisant un tout petit texte qui est comme une prière pour terminer. Plutôt deux petits textes. Le premier de Sylvie Germain, qui dit ceci. « Et puis, quand le silence m'aura entièrement consumé et vidé, peut-être que la prière qui me griffait le cœur chaque fois que je croyais l'avoir à jamais oubliée, « Reste avec nous, Seigneur, le soir tombe », me remontera aux lèvres une dernière fois. » Et puis, deuxième petite réflexion personnelle, mais j'ai écrit pour autre chose, mais que je trouve qu'il ira bien pour conclure ici. Le soir tombe. Le soir tombe sur nos vies, qui ne sont que vapeur, brins d'herbe jaunis à peine levés, sur nos illusions démesurées, notre ambition dégonflée, nos espoirs d'héroïsme brisés. Le soir tombe, annonçant l'épilogue de cette courte parenthèse, ce voyage éphémère en humanité, ce petit épisode dans la grande saga du vivant que nous appelons pompeusement ma vie. Le soir tombe, comme un rideau fané sur la scène familière où nous avons joué, aimé, mais aussi ri, aimé, dansé, en essayant d'oublier que ce moment viendrait. Le soir tombe et nous délivre des trop grandes fatigues, des combats que nous ne pouvons plus mener, du brouhaha et du tumulte, de ceux qui continuent les yeux fermés, prétendant que le soir n'arrivera jamais. Le soir tombe, et l'astre qui s'éclipse embrase une dernière fois le ciel, l'eau et nos méditations. Il déverse sans compter son or liquide, ses pourpres princiers, ses palettes d'oranger, couleurs chaudes rassurantes, que nous savons à présent apprécier. Car le soir tombe, mais toi, tu restes. Tu as saisi notre main, notre cœur, nos pensées. Et nous savons avec une absolue certitude que tu ne vas pas les lâcher, que tu es, tu seras, tout contre nous, en nous-mêmes, cœurs mêlés, intimement liés, pour cette dernière, cette terrible, cette superbe première traversée. Seigneur, merci pour ces moments d'intimité que tu veux partager avec nous.